Ce matin, donc, cette table ronde intitulée Queer, on verra dans quelques minutes de quoi il s'agit, peut-être, on va essayer de comprendre. Et une deuxième cet après-midi, en début d'après-midi, où le genre sera compris en un autre sens, en s'appuyant sur l'esthétique. Les trois intervenants de ce matin sont Ralph Endels, au milieu de cette assemblée, qui nous vient des États-Unis, mais aussi des Flandres francophones. Hein, on a parlé un petit peu ces jours-ci. Professeur de littérature française et comparée à l'université de Miami. Vous intéressez dans vos recherches à la littérature française, à la littérature franco-arabe, au rapport de la philosophie, de la littérature et de l'esthétique, aux études postcoloniales, aux études gays, il y a beaucoup de choses. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Les écrivains français devant le monde arabe. Il y en a certains qu'on trouve ici. Et puis apparaître en automne 2010, Passion de Jean Genet. Ensuite, ce sera au tour de Claire Finnburg de présenter ses propos, puisqu'on continue à procéder de cette manière avec une première intervention de la part de chacun des intervenants. Vous venez du Royaume-Uni, vous enseignez au département d'études de littérature, film et théâtre à l'université d'Essex. Votre dernier ouvrage, publié chez Macmillan en 2006, s'intitule Jean Genet, performance et politique, au pluriel et en anglais. Et vous écrivez actuellement un livre sur la théorisation de la mise en scène chez Genet. Et votre intervention y fera allusion. On a déjà évoqué d'ailleurs un peu cette idée du théâtre qui s'introduit dans le politique ou par le politique hier. Et je pense que ce sera une sorte de prolongement de ce qui s'est dit hier. Enfin, Nathanaël Wattebled, vous êtes docteur en philosophie esthétique et politique à Paris 8, associé au Centre d'études féminines et d'études de genre. Vous allez. Doctorant, pardon. Prenez le micro qu'on entende bien. Rectification.
Doctorant.
Normalement, ça marche, mais il faut que ça chauffe un peu. C'est vert, c'est allumé. Si, ça marche, on entend. Il faut parler près et fort.
Donc, je disais doctorant et non docteur.
Voilà. Doctorant. Donc, en mouvement vers le doctorat. Vous avez publié plusieurs articles sur la question justement de genre et vous allez ici plus particulièrement aborder les questions de vocabulaire et de théorie peut-être aussi, en particulier la théorie queer, mais pas uniquement, puisque vous allez aussi vous intéresser dans votre propos au corps. En général. Je vous propose de nous exposer donc dans un premier tour de table ces propos et vos argumentations. Je vais tenter d'introduire pour vous donner à tous aussi la couleur générale de cette première période, ce premier moment d'échange sur le genre, ce matin plutôt sur des questions d'identité et de simulacre, le mot a été évoqué hier aussi, travestissement, de jeu, de posture chez Genet, que vous allez aborder les uns et les autres de différentes manières. Le mot a été lâché aussi hier de transsexualité. On verra avec cette table ronde intitulée Cuir, donc qu'il sera évidemment question de sexe, de sexualité, de transsexualité peut-être, d'homosexualité ou pas, mais aussi abordé à travers d'autres thèmes, en particulier celui du politique et celui de l'identité. Une manière détournée d'y arriver, mais. On va commencer avec vous, Ralph Endels, de manière détournée, mais vous allez nous y mener sûrement vers la question traitée ce matin, la politique, pour évoquer l'engagement amoureux de Genet et la mise en lumière de ce que vous faites, de ce que vous mettez en lumière, à savoir l'articulation chez lui du politique sur l'érotique. Je vous laisse la parole.
Merci. Je ne sais pas si c'est ce que je fais, c'est ce qui m'interroge dans, chez et à partir de Genet. Je voudrais lire d'abord en exergue au fragment de la brève intervention que je vais vous présenter une déclaration de Genet à Goytisolo rapportée par Elias Sambar dans Le bien des absents. Si quand les nègres sont persécutés, tu ne te sens pas nègre, si quand les ouvriers sont écrasés, si quand les femmes sont méprisées, tu ne te sens pas femme ou ouvrier, alors tu auras été un PD toute ta vie pour rien. Je parle dans le vide et dans le noir. Cependant, fût-ce pour moi seul, je veux encore insulter les insulteurs. Cette voix, ici évoquée par une citation reprise au texte radiophonique « L'enfant criminel » et qui nous parvient du vide et du noir, est assurément solitaire. Elle est, comme celui qui la profère, définitivement dehors, selon une formule d'Albert Dichy. Elle nous parle cependant, et en ce sens, elle est aussi publique. Mais de quoi nous parle-t-elle? Si ce n'est, et voilà la formule élancée que je reprends à l'avertissement de l'ennemi déclaré, d'une morale politique. Celle-ci n'entretient de complicité avec aucun appareil d'État ou de société, comme nous le rappelle judicieusement Tahar Ben Jeloun. Mais encore, elle ne relève d'aucune normativité, ni d'aucun ordonnancement idéologique qui la servirait au principe d'identité. On va donc se distancier ici de l'assertion, par exemple, de Léo Bersani dans Homo, qualifiant Genet par, je cite, his refusal to enter in any communication whatsoever, son refus d'entrer dans un quelconque type de communication ou d'interlocution ou d'interaction dialogique. Que nous dit dès lors cette voix? Je cite toujours dans L'enfant criminel, « Veuillez considérer que je cherche à définir une attitude morale et à la justifier. Je reconnais vouloir surtout l'interpréter, ce qui implique que cette attitude morale soit énigmatique pour Genet lui-même et à le faire contre vous. Du vide et du noir de la nuit surgit dès lors en pleine lumière et, si j'ose dire, dans le plein jour de la nuit, une exigence éthique dont le contenu de vérité réside non seulement dans son devoir oppositionnel, le « contre vous », mais encore dans sa volonté herméneutique réflexive qui est le symptôme de son aveu d'ignorance à soi-même. Évoquant sa démarche morale dans « Journal du voleur », Genet la caractérisait déjà par cette opacité à soi qui est constitutive de son invisibilité. C'est le point idéal d'une morale dont je ne puis parler car je ne l'aperçois pas. Et cela me paraît probablement la meilleure réponse que Genet puisse post-mortem donner à tous ceux qui prétendent lui attribuer une morale positive ou négative. Une morale dont je ne puis parler car je ne l'aperçois pas. Elle relève cette morale de ce que je voudrais appeler la nuit politique du désir. Politique, lors même et parce que des motivations et des modalités en apparence et du point de vue des idéologies communes, non politiques, à savoir fondamentalement différentes de ce qu'il est convenu de considérer comme politique, ont produit existentiellement et scripturalement l'émergence chez Genet d'une véritable pensée politique en creux, nuit politique et du désir, car c'est dans l'opacité, la noirceur de la nuit, que le désir s'outrepasse dans l'universalité du tout homme, la reconnaissance du genre humain. Mais il s'agit ici d'un désir spécifiquement nommé, qui se déclare dans la lumière propre de son irradiation nocturne, en un entremêlement de l'éthique et du politique et de la passion passionnelle et érotique. Car c'est bien le désir qui traverse et sous-tend celle-ci tout entière, y compris et peut-être même surtout en son engagement. Et dans la pulsion qui porte Genet, je cite ici Didier Ribon, à écrire et qui est toujours animé par la volonté de rendre humanité aux humiliés, de réhabiliter ce qui est voué à l'ignominie, ou encore pour reprendre le terme que Genet utilise sans cesse, à l'abjection. Mais encore convient-il d'ajouter qu'une telle pulsion, pour reprendre le terme des Ribons, n'est point chez Genet éthiologique, mais relève en fait du régime secondaire de la conséquence. L'universalité de ce qu'Héribon encore dénomme l'isotopie sociale des exclusions, qui a placé Genet du côté et souvent aux côtés des parias, des damnés de la terre, des travailleurs immigrés, des colonisés et des rebelles, des Black Panthers et des Palestiniens, est d'abord motivé subjectivement par ce que Genet appelle en toute probité une charge érotique, dont il avoue, et c'est très important d'en prendre note et d'en tenir compte, dont il avoue, je cite, « avoir du mal à expliquer sa relation avec l'engagement éthico-politique ». Une citation de l'entretien avec Hubert Fichte, repris dans « L'ennemi déclaré », exprime bien le clair-obscur d'une telle dialectique vécue du singulier et de l'universel. J'ai été invité par deux mouvements révolutionnaires, par le mouvement des Panthères Noires et des Palestiniens. Bon, je vous ai dit au cours d'entretiens précédents ce qui était avouable, les raisons avouables. Maintenant, ce qui est plus difficilement avouable, c'est que les Panthères sont des Noirs américains, les Palestiniens sont des Arabes. J'aurais du mal à expliquer pourquoi les choses se font comme ça. Mais ces deux groupements ont une charge érotique très forte sur moi. Je me demande si j'aurais pu adhérer à des mouvements révolutionnaires qui soient aussi justes que, je les trouve très justes, le mouvement des Panthères et le mouvement des Palestiniens. Mais cette adhésion, cette sympathie, est-ce qu'elle n'est pas commandée en même temps par la charge érotique que représente le monde arabe dans sa totalité ou le monde noir américain pour moi, pour ma sexualité? Le devoir éthique d'engagement, à ne pas confondre évidemment avec la littérature engagée que Genet, nous le savons tous, je crois, rejette fermement et qu'il n'a jamais pratiqué, relève certes de l'ordre des fins. Pour Genet, la cause des Black Panthers ou celle des Palestiniens est hors de tout désir, essentiellement juste. C'est par le déclenchement et la médiation du désir, mais évidemment non pour le bénéfice ou la prime de plaisir de son effectuation, qui pourrait aisément trouver d'autres lieux et d'autres modalités, que Genet va rejoindre les Black Panthers, les Palestiniens ou encore les Fennel algériens en France, auxquels il évoque en ces termes son adhésion avec cette suspicion réflexive en abîme déjà désignée auparavant. Je cite « Peut-être, je souligne, peut-être, que si je n'avais pas fait l'amour avec des Algériens, je n'aurais pas été en faveur du FNL. » Mais non, je l'aurais été sans doute, de toute façon. Mais c'est peut-être la pédérastie qui m'a fait comprendre que les Algériens étaient des hommes comme les autres. Et je laisse ici de côté la question du tout homme et de la relation avec les autres. La probité provocatrice de celui qui est suspect à lui-même, Genet, problématise évidemment la bonne foi de toute prétention à l'accès dit non motivé, désintéressé, pur de tout désir, mais aussi de toute envie, de toute ambition, de toute revanche, de tout ressentiment, à l'isotopie sociale des exclusions. L'engagement amoureux de Genet, cette attitude morale dont au demeurant il n'aperçoit pas le point idéal, car il est dans le vide et le noir de la nuit politique du désir, et qui l'amène à s'aligner sur des luttes qu'il juge justes, s'ancre au cœur d'une existence à la fois radicale et marginale, par laquelle il rejoint les acteurs d'une praxis politique dont il assume individuellement les objectifs. Dans Fragments, Genet définit son homosexualité en ces termes, pas l'homosexualité pour autant qu'une telle expression ou une telle chose ait un sens. Il dit « Il s'agit d'une donnée dont il ne saurait s'accommoder, qui l'isole et le coupe du monde. Aucune tradition, ajoute-t-il, ne vient à son secours, ne lui lègue un système de référence, sauf par des manques, ne lui enseigne une convention morale. Si l'on prête attention à chaque mot de cette assertion et que on la reporte sur la topique de l'engagement amoureux, il devient évident que si le désir homosexuel et la charge érotique qui l'amorce motivent le choix de la cause et sous-tend l'attention qu'elle mérite et réclame, le sujet historique et social qu'il s'agit de représenter et de défendre est non seulement aussi l'objet de ce désir, mais encore littéralement, il l'incarne. En effet, la situation sociopolitique et même existentielle des Black Panthers, dont je n'ai dit ailleurs qu'ils étaient dans une sorte de vide politique, celle des fédaïnes, qui selon Jeunesson, je cite, « dans une espèce de rêve éveillé, abandonné de tous », ou encore celle des immigrés, dont Genet, à la fin des années 60, insistait sur le fait qu'elle n'intéressait ni les partis, ni les syndicats, ni les intellectuels de la gauche française, avec quelques exceptions, dont Tahar Ben Jelloun, ici présent. Ces instances sont à chaque fois isolées, coupées du monde, sans référence et sans tradition qui viennent à leur secours. Mais quand bien même c'est le désir qui initie le choix de la cause, et que c'est à l'essence aliénée et rejetée de celui-ci que celle-ci, la cause, renvoie, une fois embrassée et emportée par le désir, la cause s'en écarte, sans jamais s'en autonomiser. Léo Bersani entend voir dans ce qu'il appelle « the inestimable value of sex without exchange », la valeur inestimable de la relation sexuelle sans échange, il entend voir la leçon érotique et immoraliste, c'est lui qui le dit, de Genet. Mais c'est en fait la définition même de l'échange amoureux que ce dernier Genet met en cause. Et c'est l'indéfinition essentielle de l'amour, pour notre propos homosexuel, dont n'est jamais saisissable en sa discontinuité formelle que le discours fragmentaire, comme évidemment Roland Barthes l'a superbement illustré, qui oriente le point idéal dont il ne peut parler. Il arrive à cet égard, à Genet, d'être très clair, comme en témoigne cet extrait encore de l'entretien avec Hubert Fichte, dans lequel il évoque ses souvenirs d'enfance, on a beaucoup parlé de l'enfance hier, et d'adolescence, donc bien avant de se retrouver un demi-siècle plus tard auprès des Black Panthers aux États-Unis, des immigrés en France ou sur les rives du Jourdain avec les Palestiniens. Je cite « Mais je n'ai jamais vécu la sexualité à l'état pur. Elle a toujours été accompagnée de tendresse, peut-être d'une affectivité très sommaire et très rapide. » Mais je n'ai jamais fait l'amour à vide, je veux dire sans contenu affectif. Et il ajoute, j'étais attiré par un garçon de mon âge. Ne m'entraînez pas trop loin dans les définitions. Je ne veux pas définir ce qu'est l'amour, bien sûr. Mais je ne pouvais faire l'amour qu'avec des garçons que j'aimais. Sinon, oh, j'ai fait l'amour aussi avec des types pour avoir de l'argent. À la question de Fichte, est-ce que vous avez une conception révolutionnaire de l'amour? Question dont la formulation, évidemment, indique la datation aussi, on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Genet répond, oh non, révolutionnaire, non. La fréquentation des Arabes m'a heureusement satisfait en général. Essayons de saisir le sens de la restriction mentale qui informe cette réponse. Dans une lettre à Patrick Prado, un interlocuteur qui l'entraînera dans le combat politico-social des immigrés, Genet écrit « La poésie ne sert aucune idéologie. La poésie, toute action qui vise, rejoint les hommes, salauds ou non. » La poésie va plus loin que la politique, mais la politique, une certaine politique, prépare la poésie. Et alors, il y a communication entre les hommes. L'engagement amoureux de Genet, tout au bout de la nuit politique du désir, n'est en effet absolument pas conceptuel. Il demeure tout inscrit dans le vide et le noir d'une ignorance autoréflexive radicale. Son opacité existentielle ne s'éclaire que dans l'écriture, que Genet toujours dénomme poésie. Cet éclairage, loin d'éluder l'énigme du désir, la travaille et la renforce. Il est certes profondément, irréductiblement éthique et politique. Mais aux antipodes de ce qui se passe de façon immanente dans la littérature engagée ou dans l'engagement politique en général, où se thématise une conceptualisation abstraite et réifiée, il demeure toujours en dehors de la poésie, c'est-à-dire en aval et en amont de celle-ci. Le passage du désir à l'éthico-politique est dès lors de l'ordre d'un saut entre cet amont et cet aval. Saut dont l'élucidation, qui est la topique d'un livre en chantier, me ferait sortir évidemment des limites imparties à cette brève présentation. Encore se pourrait-il bien qu'une telle élucidation soit elle aussi prise en sa limitation opératoire dans l'énigme d'une autre captivité amoureuse, celle même de celui, moi qui vous parle, qui entend la tenter. Merci.
Merci Ralph Nels. Je voudrais à présent laisser la parole à Claire Finbourg pour nous exposer ses réflexions sur le refus d'identité fixe chez Genet à partir de la pièce Les Nègres, mais aussi la réappropriation d'une identité forcée, outrée peut-être, ce que vous allez aussi illustrer au sens propre avec quelques tableaux commentés qu'on va voir dans quelques instants. Claire Finbourg.
Merci, merci beaucoup. Je commencerai avec une citation de Genet lui-même. « Je suis peut-être un noir qui a les couleurs roses ou blanches, mais un noir. » Alors, dans cette petite présentation, je vais interroger très brièvement le terme, en fait, d'ornement, un ornement dans l'œuvre de Genet, afin de mieux comprendre chez Genet la notion d'identité, une notion qui lui permet de se décrire lui-même comme noir. Je vais me référer brièvement à la théorie, en particulier la théorie théâtrale de Walter Benjamin, qui a écrit, dont les œuvres ont été publiées essentiellement en France dans les années 40 et 50, mais à ma connaissance, Genet ne connaissait pas l'œuvre de Benjamin, mais j'espère montrer un peu comment ça peut être utile pour comprendre un peu la notion d'identité dans le théâtre de Genet. Alors, l'importance centrale accordée par Benjamin au relativisme et au non-essentialisme fournit un moyen utile pour comprendre le refus d'identité fixe, de signification stable et de vérité incontestable dans le théâtre de Genet. Dans un essai de Benjamin de 1916 qui s'intitule « Sur le langage en général et sur le langage humain », Benjamin se réfère au premier livre de la Bible, la Genèse. Alors, comme vous savez très bien, Dieu demanda à Adam de nommer chaque chose dans sa création. Dans la langue paradisiaque de Adam, la relation intrinsèque entre les choses et leurs noms fut garantie par Dieu. Mais, comme on sait tous, Adam et Ève goûtèrent du fruit interdit, c'est ce que Benjamin explique, et dû à leur péché, dû à la chute, cette langue univoque fut remplacée par une confusion babélienne de langues, dont, selon les mots de Benjamin, aucune langue n'est ni adéquate ni précise. Alors, plutôt que la chute, Genet représente cette dislocation entre la forme et le sens de la langue avec de nombreuses autres métaphores, et parmi elles, l'ornement. Dans Le secret de Rembrandt, il décrit le tableau de Madame Tripp. Et je suis sûre que vous connaissez bien ce tableau, mais quand même, je l'ai ici, et la citation aussi. Les rides sont scrupuleusement notées, les pattes d'oie, les plis de la peau, les verrues, mais ils ne se prolongent pas à l'intérieur de la toile. Ils ne sont pas nourris par la chaleur qui vient d'un organisme vivant. Ils sont ornements. Rembrandt peint les rides et les verrues de Madame Tripp, qu'on voit sur son visage ici et aussi sur les mains, avec des traits de pinceau, des tons, des couleurs qui affirment la présence concrète de la peinture ou, comme dit Genet, la magnificence singulière de la couleur. Pour Genet, cet accent mis sur la matérialité veut dire que la surface du tableau devient une espèce d'ornement, une parure qui est en rupture avec le personnage que la peinture devrait incarner. La chute benjaminienne ou l'ornement genétien dénote ainsi la dislocation inévitable entre forme et contenu. Benjamin, dans son œuvre clé sur le théâtre, L'origine du drame baroque allemand, développe son argument par rapport à cette nature inadéquate de la langue. Il raconte qu'après la chute, l'humanité compensa, comme j'ai déjà dit, la confusion des langues avec une masse agglutinante de parlers approximatifs. Pour lui, c'est la raison pour laquelle les auteurs du drame baroque allemand, le Trauerspiel, se servirent de costumes ornés, de décors ostentatoires, de gestes hyperboliques, de rhétoriques flamboyantes. Et décrivant le Trauerspiel de cette manière, ça m'évoque très clairement les dernières pièces de Genet, en fait. Alors, avec cette ornementation très fastueuse, selon Benjamin, ces auteurs des Trauerspiel tâchèrent de capter du sens tout en indiquant l'impossibilité de cette entreprise de capter le sens. Des parallèles notables existent entre cette théorie de Benjamin et l'esthétique de Genet. Dans Le secret de Rembrandt, Genet décrit le tableau La fiancée juive que nous avons ici. Il dit « Cet effort amène Rembrandt à se défaire de tout ce qui, en lui, pourrait le ramener à une vision hiérarchisée du monde. Une main vaut un visage un coin de table un bâton une main une manche, et tout cela renvoie d'abord à la main, à la manche, puis à la peinture sans doute, mais à partir de cet instant, sans cesse de l'une à l'autre et dans une poursuite vertigineuse vers rien. » Le regard du spectateur est attiré simultanément dans de multiples directions, vers le visage de la fiancée, vers sa main, surtout selon Genet, vers la manche en fait, vers les manches des vêtements, vers un trait de pinceau, vers une couleur. Comme dans le Trauerspiel décrit par Benjamin, l'excès des effets visuels fait vaciller l'œil du spectateur de manière étourdissante, dissipant ainsi toute unité cohérente et tout sens univoque. L'œuvre entière théâtrale de Genet témoigne de ce manque de signification essentielle. Je vais illustrer mon argument très brièvement en faisant allusion au nègre, sa pièce. Les acteurs noirs dans cette pièce se conforment à tous les clichés de l'Africain barbare, entre guillemets, conçus par les discours coloniaux et racistes. Ils puent des pestilences de leur marécage, je cite la pièce, ils envoient des signaux de fumée, ils font allusion au cannibalisme, au voodoo, ils se présentent comme des fauves, des danseurs en transe, des prédateurs sexuels, donc ils se conforment à tous ces clichés. Pour mieux comprendre ces références à une image nettement discriminatrice, j'évoque un tableau de l'artiste britannique Chris O'Filly, qui est d'ailleurs très influencé par l'œuvre de Genet. Alors, dans ce tableau de 1999 qui s'appelle « L'adoration du capitaine Merde et la légende des étoiles », ici, on voit les lèvres exagérément charnues et le nez démesurément aplati ou camus du sujet qui, pour moi, évoque très clairement les personnages dépeints dans Les Nègres de Genet. Et je cite l'un des personnages de Genet qui dit « Nègre, balafré, puant, lip, pu, bavant, suant, rotant, crachant, baiseur de bouc, toussant, pétant, feignant, malade, dégoulinant d'huile et de sueur. Chris Philly, le peintre britannique ici, orne ses sujets aussi de guirlandes ou de colliers de perles et d'étoiles. Alors ici, on voit les étoiles et aussi tout ce qui est souligné en blanc, en fait, ce sont de toutes petites perles de peinture. Donc c'est très, très, très décoré, très orné. Au centre de chacun de ces ornements ou de ces étoiles ici, Chris Philly colle une photographie d'un noir découpé dans un magazine. Et ici, on ne voit que les yeux, en fait, découpés, mais souvent, dans les d'autres tableaux, on voit très clairement les personnages découpés dans les magazines, qui sont la grande majorité des dealers, des chanteurs de musique soul, des maquereaux, des prostituées. Les tableaux de Ophélie hyperbolisent presque ad nauseam l'identité imposée sur les personnes d'origine africaine. Archibald dans Les Nègres atteste la même démarche d'exagération. Il dit que les nègres se nègrent, qui s'obstinent jusqu'à la folie dans ce qu'on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans l'œil jaune, dans leur goût cannibale. Et c'est très flagrant, on a vraiment le même effet devant un tableau de Chris Ophéli. Genet, alors comme Chris Ophéli, amplifie à outrance l'identité imposée à ceux d'origine africaine, afin d'indiquer que cette identité n'est qu'une image, une surface. Comme la peinture visqueuse de Rembrandt ou comme les colliers de perles de Chris Ophéli, l'image n'est qu'un ornement. Et cet ornement est la dislocation même entre stéréotype simplificateur du noir et réalité singulière de chaque individu d'origine africaine. Alors l'identité ainsi n'existe pas chez Genet. Selon le discours de Félicité dans la pièce, la race, je mets entre guillemets des nègres, entre guillemets, comprend une grande multiplicité de rangs sociaux, de métiers, de pays, d'individus qui incluent, selon le discours de Félicité, des princes des hauts empires, des princes des pieds nus, des étriers de bois, des nègres des docks, des usines, des bastringues, nègres de chez Renault, de chez Citroën. Dans une pièce qui s'appelle Les Nègres, Genet ne fournit aucune définition du noir, évitant ainsi toute fermeture de sens. Il offre un grouillement de clichés, comme Ophélie, de cette prétendue race qui n'en est pas une. Comme dans La fiancée juive de Rembrandt, ou bien le tableau d'Ophélie, où l'œil du spectateur voltige d'un signe à l'autre, dans Les Nègres, une panoplie de systèmes significateurs se bat jusqu'à l'étourdissement pour l'attention du spectateur. Comme dit Félicité dans la citation que tout le monde connaît, « Noir ou blanc ou bleu, rouge, vert, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, que sais-je, où suis-je ?» La couleur noire finit par être un arc-en-ciel. Puisque Genet refuse toute notion d'identité, de signification ou de vérité définitive, on pourrait l'accuser de nihilisme existentiel ou politique. Il décrit d'ailleurs dans Le secret de Rembrandt comment l'artiste est à la poursuite d'une vérité qui le fuit. Également, certains critiques reprochent Benjamin d'être pessimiste parce qu'il propose que le Trauerspiel, le drame baroque allemand, qui veut dire d'ailleurs « pièce de deuil », soit une illustration d'un monde post-adamique, sceptique, où les humains, abandonnés par Dieu, subsistent sans aucune vraie valeur. Néanmoins, cette résistance à un sens absolu chez Genet et chez Benjamin peut être considérée comme une affirmation. Benjamin emploie le dispositif de la constellation pour dénoter la fragmentation de l'œuvre artistique en une myriade d'éléments. Par contraste avec les notions conventionnelles d'unité, dans la constellation benjaminienne, le détail n'est pas absorbé par le tout. Comme je l'ai déjà expliqué, les personnes, les objets et les idées chez Benjamin n'ont aucune signification inhérente. Ils obtiennent leur signification relative à leur position mouvante dans des amas rassemblés comme des étoiles dans des constellations. Le décentrement par la fragmentation domine aussi l'esthétique de Genet. comme je l'ai déjà évoqué, une surabondance d'éléments hétérogènes attire constamment l'attention du spectateur, notamment dans le théâtre. Comme dans la critique benjaminienne, dans le théâtre de Genet, les signes prennent du sens uniquement en relation avec d'autres signes qui forment autour d'elles des constellations. Or, chaque détail est important puisque dans chacun réside la clé qui permet de comprendre tous les autres. Genet déclare dans Le secret de Rembrandt, chaque objet possède sa propre magnificence, ni plus ni moins grande que celle de tout autre. Dans Le secret de Rembrandt, Genet fait allusion aux implications potentiellement éthiques et certes esthétiques d'une configuration décentrée. Il décrit comment Rembrandt traite de manière égalitaire chaque élément de son portrait, les verrues, le pigment, les manches, comme j'ai montré. Genet évoque l'idée de la bonté, entamant son essai par l'expression « une bonté forte ». La vision de Rembrandt est bonne, selon Genet, parce qu'elle rejette toute hiérarchie, accordant à chaque centimètre de la toile une importance primordiale. Et chez Genet, la vision non essentialiste de l'identité est bonne aussi, puisque n'importe qui a la capacité de décider d'être qui il veut. Genet lui-même peut se métamorphoser en noir. La fragmentation, pour terminer, la fragmentation crée ainsi chez Genet un principe de désorganisation, le désarroi, fracturant l'harmonie d'un discours totalisant. Mais en créant ces constellations de sens relatifs, l'auteur transforme un manque de signification potentiellement nihiliste en une vision affirmative, c'est-à-dire en des unités qui incluent les éléments, notamment les éléments, tous les éléments théâtraux, je peux en parler ultérieurement. Au lieu de les synthétiser, il les inclut.
Nathanaël Wadleb, je voudrais, malgré l'affirmation de Ralph sur cet engagement amoureux de Genet qui n'est absolument pas conceptuel, qu'on revienne quand même avec vous sur quelques notions. D'abord parce que cette table ronde est intitulée « Cuir » et qu'il faut peut-être préciser de quoi il s'agit. Et aussi peut-être parce que ça va nous renvoyer à ce qui a été dit précédemment pour préciser certaines notions, leur sens et leur histoire peut-être aussi par rapport à l'apparition d'un certain vocabulaire, d'une certaine manière de voir les choses avec Genet, le vocabulaire n'étant peut-être pas celui qu'on utilise aujourd'hui, celui qui était de son époque. Nathanaël.
Bon, donc pour répondre à ça, le propos que je vais vous faire va être un peu bâtard. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le texte parce que je n'aurai pas le temps, ni non plus approfondir les concepts théoriques parce que je n'aurai pas le temps non plus. J'évoquerai ce que signifie queer plus tard, disons d'une... Grosso modo, il me semble que la théorie queer s'organise selon un certain nombre de notions, pas des concepts, vraiment des notions, choses fluctuantes, qui seraient, à mon sens, la maîtrise du langage, la vivabilité de ce qu'on a appelé le placard, closet, la performativité de l'écriture de soi et la mise en mal. Mise en mal étant la traduction que Derrida propose de l'anglais Trouble, qui fait le titre de l'ouvrage de Butler, Gender Trouble. Je développerai ces points à partir de Genet, disons. Je voudrais commencer par une histoire rapidement. Vous connaissez tous, j'imagine, je crois que c'est repris dans le Disney, Alice au Pays des Merveilles, quand Alice rencontre l'espèce de gros œuf qui s'appelle Humpty Dumpty en anglais, gros coco en français, qui lui dit que finalement la seule question qui compte, c'est qui est le maître du langage. Donc, Genet est en un sens l'écrivain de ce que F. Kosowski Sedgwick nommera bien plus tard le placard. C'est le lieu de l'abjection, là où sont mis et produits les déchets de l'ordre social et culturel. Le placard est la zone, non pas le lieu à proprement parler, mais la zone des déchets oubliés que constitue l'abjection. C'est une place où l'ordre social est symbolique, mais ce qui ne devrait pas exister et le marque comme ne devant pas exister. On est criminel, marle ou lope. On ne choisit pas. Il ne s'agit pas d'une prédestination biologique, mais d'une place spécifiée par la naissance. En un sens, le sacre du criminel, la nomination argotique du voleur ou la stigmatisation injurieuse de la tante sont des naissances en cela qu'elles instituent l'individu dans sa vie sociale. L'individu déchu est non seulement figé, mais surtout figé parce qu'ainsi produit et déterminé dans la taxinomie des espèces infâmes. Par exemple, dans Notre-Dame des Fleurs, Divine se sent humiliée par une simple remarque, car celle-ci la spécifie dans une espèce abjecte. Le nom commun spécifiant, qui devient un nom propre, est proprement une injure. Be called a name, pour reprendre le jeu de mots que fait Judith Butler. Notre-Dame des Fleurs donne une double description de ce moment initial où l'individu est ainsi nommé par l'injure. Divine est qualifiée de pédérasque, et ce mot lui impose une identité homogène et exclusive, comme le mot voleur, quand Mignon est surpris en train de voler et ainsi qualifié. Le pédérasque et le voleur sont comme contenus dans la lettre du mot, non pas parce que le mot imiterait la réalité désignée, mais parce qu'il la constitue performativement. Il crée la chimère ou le monstre. Divine devient alors ce qu'elle est, en tant que désignée et façonnée par le regard sur une homosexualité fantasmée, ou plus exactement, produite dans le fantasme du masculin normal, et qui donc, cette homosexualité fantasmée, comme la femme lacanienne à proprement parler, n'existe pas. Le nom commun injurieux, qui apparaît comme un complément du nom propre, devient en réalité, par un effet à la fois métonymique et métaphorique, un nom propre. Métonymique, car un qualificatif en vient à désigner l'existence ontologique de l'individu. Métaphorique, car ce qualificatif est utilisé de manière impropre en tant que nom propre. Il est possible de reconnaître dans ces deux figures celles que Freud identifie comme étant celles du déplacement constitutif des rêves. À travers ces dénominations, l'ordre social spécifie et nomme les individus qui sont ensuite rêvés par le champ poétique génétien. Il leur donne une identité et une identification qui revient métonymiquement et métaphoriquement dans la langue et la littérature. Le déchet qui était nommé comme innommable revient dans la langue. Cette spécification est ainsi essentiellement linguistique. C'est celle du nom propre reçu et de la maîtrise du sens qui échappe, parce que la maîtrise du signifiant elle-même échappe. Cependant, puisqu'il est abject, Genet voudra l'être. Il l'assumera et le revendiquera. Il fera du placard le lieu de sa vie, d'une vie possible et même féerique, en marquant l'abjection d'un érotisme floral. L'abjection se présente sous la forme de l'érotisme et les fleurs sont la marque de cet érotisme et de cette féerie. Par ce signifiant qu'il se donne lui-même, il reprend la maîtrise du langage, le pouvoir de frapper ou de battre les choses, comme l'on dit que l'on bat monnaie. La prison, ou le lieu hétérotopique du placard, où sont relégués les homosexuels, ont la même forme. Le bagne en est la représentation littérale, et l'exclusion injurieuse des abjects en est la représentation métaphorique. L'univers de la prison recoupe métaphoriquement l'évocation de l'homosexualité. Les fleurs en sont le signifiant commun, celui du placard. Il ne s'agit pas d'un symbole qui donnerait sens, mais de la marque qui a frappé le lieu de l'abjection. De la même manière que le signifiant lacanien est frappé pour donner sens aux choses. Ainsi, en est signalée la position dans l'ordre symbolique de la culture. En ce sens, il est peut-être possible de faire un pas de plus et de considérer les fleurs comme le nom propre du genre, au sens de gender, des personnages génétiens. Il y a chez Genet des morceaux de corps réputés non érogènes qui sont érotisés, comme s'il s'agissait là d'un nouveau corps se réorganisant dans un corps érogène nouveau correspondant à une certaine sexualité. Le plaisir s'organise dans une topographie différente correspondant à des pratiques susceptibles de l'exciter. Si une nouvelle érogénéité apparaît, elle va avec de nouvelles pratiques qui lui correspondent. Fleur en serait le nom propre, le signifiant de ce corps et de ses pratiques. S'il est possible de dire, en un sens, que Genet n'a pas eu de rapport sexuel, je crois que ça a été évoqué hier, cela ne signifie pas, à mon sens, qu'il n'y a pas de rapport de corps. Simplement, ces corps échappent à ce que Foucault nomme le dispositif de sexualité. Il s'agit de sexuel non organisé par la sexualité, non frappé de son sceau, homme ou femme, mais d'un autre. Il pourrait alors être dit, pour paraphraser Monique Wittig, que les fleurs ne sont pas des hommes. Dans cette proposition, fleurs et hommes sont équivalents comme lesbiennes et femmes chez Wittig. Dans un mouvement qui fait de la lesbienne le signifiant de ce corps et de ses pratiques sexuelles, comme femme l'est de ce corps et de ses pratiques qu'elle a ailleurs qualifiées de straight. Celui qui est abjecté, comme on pourrait dire subjectivé, se réapproprie ainsi la situation d'humiliation à travers sa métonymisation et sa métaphorisation. En produisant une espèce abjecte, l'ordre social a en fait produit la condition de son retour, au sens où l'on parle de retour du refoulé. Ce retour est l'œuvre de Genet elle-même. S'il peut avoir lieu, c'est que l'injure, dans le mouvement même où elle spécifie l'individu comme sujet abject, lui permet également d'exister comme sujet et donc de se réapproprier sa honte et son abjection pour s'affirmer comme tel. Il s'agit du retour du déchet que permet ce que Judith Butler théorisera comme étant la stratégie de réinvestissement de l'injure. C'est bien de cela qu'il s'agit dans les romans de Genet. Pas du retournement de l'injure en orgueil, mais le retour de l'abjection pour lequel ce retournement est une tactique. Queer signifie en américain bizarre, était une injure, a été réinvesti comme signifiant identitaire, de la même manière, par exemple, que le terme nigger. Genet écrit la voix de ceux qui, à leur place, ne doivent pas en avoir. L'espèce de ceux, pour paraphraser à la fois Butler et Foucault, dont les voix ne sont pas des voix. Cette œuvre reproduit en un sens le cortège des Carolines du journal du voleur ou le cortège qui suit l'enterrement de Divine au début de Notre-Dame des Fleurs. À ces moments exceptionnels, l'abjection de ceux qui la portent devient visible. Ce rassemblement, qui dessine la silhouette même de l'abjection sur la place publique, le fait de la même manière que les livres de Genet l'inscrivent dans les bibliothèques. Ces deux espaces sont en un sens homothétiques, plutôt que symboliques, au sens où il s'agit dans les deux cas d'une même mise en visibilité. Les disparus, ceux qui ne doivent pas exister, trouvent ainsi une existence qui est celle de l'écriture. L'ordre social et culturel est obligé d'entendre ces mots et de voir ce qu'il ne voulait à aucun prix voir, car sa langue devient capable de le dire. Rendu visible, l'abjection se présente à la face du monde, comme Éric et Riton sur leur toit, le pantalon baissé sur les talons, formant une sorte de figure de proue. On ne peut pas ne pas les voir. Genet, plus que de leur rendre hommage, leur donne voix. Ce qui est réhabilité, ce n'est pas l'abjection, mais son vécu. L'abjection même rendue merveilleuse reste abjection. Il ne s'agit pas de la rendre acceptable, mais de la faire entendre dans son inacceptabilité essentielle, afin qu'elle puisse être vécue autrement que comme oubli social et comme invivable. Elle pourra alors être la plus belle des vies. Il ne s'agit pas de dire que l'abjection aurait une beauté ou une dignité que la normalité n'aurait pas. Il s'agit simplement de dire qu'elle peut être vécue. Cet art de transformer en chant la vie des parias n'est peut-être pas si différent de l'art de rue des Carolines. Il ne s'agit donc pas, pour Genet, de se complaire dans une injustice élevée ontologiquement, comme chez Bataille. Il ne s'agit pas de se reporter au système moraux majoritaire pour s'y opposer, mais de recomposer une possibilité de vivre. Il ne renie rien et ne dévalue rien. Il trouve tout beau, et le mal n'a pas de valeur ontologique. Il a une valeur érotique, comme l'indique le retour constant tel une litanie du motif floral. L'enjeu est d'avoir le droit d'y vivre au fond du placard, et que cette vie soit reconnue comme une vie, non pas de la ramener à une vie normale, que cette vie soit considérée comme vivable. Genet ne cherche aucune libération. Il n'aime pas tout ce qui est la République et la normalité blanche. Il aime tout ce qui est haï par eux, et ce n'est pas exactement la même chose. En ce sens, il est sans doute inexact, d'opposer la culpabilité à l'innocence. Ceux qui sont désignés comme coupables sont ceux qui sont marqués de fleurs. Genet ne saurait être le porte-drapeau des opprimés. Il est la figure même de l'innocence par sa culpabilité. Et ce n'est aucunement un paradoxe. Les abjectés sont subjectivés comme coupables par la loi, mais eux ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont coupables, dans la mesure où ils ne s'opposent pas au bien comme pourrait le faire le mal. La culpabilité est simplement leur nom propre, le nom qu'ils ont reçu comme répondant à une interpellation qui prend la forme de l'humiliation de divine au café. Ils ne trouvent aucune jouissance dans la contestation de la destruction du bien. Ils veulent seulement vivre, comme si le bien et le mal n'avaient aucun sens. On retrouve ici l'opposition clinique entre névrose et psychose. Il n'y a pas de psychose ici, mais plutôt l'innocence de la perversion. Il me semble en un sens que chez Genet, les fleurs sont essentiellement innocentes. Cette innocence fait qu'il ne s'agit pas de lutter contre le racisme, ni pour les droits des minorités contre les dominants. C'est peut-être cela, et non au nom d'une morale, que son œuvre s'inscrit en présage d'une stratégie queer, fondée non sur une conception de la justice, mais sur une conception de l'espace public hétérotopique qu'est le placard, qu'il soit métaphorique ou littéral. Le placard est à ouvrir, mais pas pour en sortir, pour que la lumière y rentre et qu'il soit possible d'y vivre. L'enjeu n'est pas le coming out, mais l'existence et les vies des voix qui, tout au fond, ne peuvent espérer en sortir et ne le veulent même pas, dont l'apparition dans la belle langue et des réchefs, dans les cours et les bibliothèques universitaires dignes et nobles, en constitue le retour psychotique de ce qui avait été forclos. C'est en cela que les fleurs de Genet sont plus queer que ne le croient Héribon et tous ceux qui, suivant la démarche de Sartre, seraient tentés d'en faire un paradoxal étendard. À moins que queer, comme homosexuel en son temps, ainsi que l'avait montré Ockenheim, ne soit plus qu'un oripeau pour folle correcte. En ce sens, Genet n'est peut-être pas aussi opposé que ça au mouvement de libération sexuelle et au mouvement révolutionnaire sexuel que son non-militantisme pourrait le faire croire. Le rapprochement avec Ockenheim et Butler, qui ont été le filigrane de cette intervention, avec l'affirmation de la dérive et de la mise en mal permanente, est frappant. Vivre une sexualité bizarre, prendre des plaisirs bizarres avec des parties bizarres de son corps, pour reprendre les termes que Foucault utilisait pour décrire le sadomasochisme. En un sens, il s'agit d'un programme politique, d'une politique qui sera nommée queer. Au même titre que Ockenheim, Foucault me semble queerisable, pour faire un mauvais néologisme. En ce qu'il travaille dans le sens du projet de Foucault qui servira de base, ou plutôt de non-base à la politique queer, je cite Foucault. L'homosexualité est une occasion historique de rouvrir des virtualités relationnelles et affectives, non pas tellement par les qualités intrinsèques de l'homosexuel, mais parce que la position de celui-ci, en biais de en quelque sorte, les lignes diagonales qu'il peut tracer dans le tissu social permettent de faire apparaître ces virtualités. Commentant ce passage, Fassin conclut d'une formule que l'on pourrait aussi bien reprendre pour Genet, dans la vision que je viens d'en esquisser. C'est l'annonce d'une politique fondée sur une esthétique de l'invention plutôt que de la transgression qu'on nommera quelques années plus tard « queer ». Ce à quoi Genet s'oppose, c'est à la normalisation de l'acceptabilité et de la tolérance. D'un point de vue politique, le cortège des Carolines contre la gay pride, l'innocence contre la fierté. Et je voudrais conclure, en insistant sur le fait de cette politique révolutionnaire, il me semble, quoi qu'on en dise, en reprenant ce chant, je vais juste le lire, je ne vais pas le chanter, mais excusez-moi, vous connaissez tous l'air de l'International, si vous voulez, vous pouvez le chanter la main sur le cœur. Donc, je cite, c'est l'orgasme final. Tous au lit et demain, les gouines et les pédales feront le genre humain. C'est ça, le sens politique que je tire de Genet. Cette réécriture de l'International a été chantée en 1971 par les membres du FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, lors de la première commémoration des émeutes de Stonewall. Et j'en profite pour placer cette intervention, puisque le moment où je l'écrivais était le moment de l'annonce de sa mort, en référence à Jean Lebitou, donc mort il y a quasiment 2 mois, semaine pour semaine, qui défilait donc et qui est un des auteurs de cette magnifique reprise de l'International. Je vous remercie.
Merci. Alors, on a quelques minutes d'échange entre vous avant de laisser le micro à l'assistance. Et je vois, Ralph, que vous prenez le micro. Je vous ai vu beaucoup noter. Et je pense que vous avez pas mal de questions ou de réactions, aussi bien au propos de Claire Finbourg que ceux de Nathanaël Wadleb. Et peut-être commencer avec cette formule, cette question lancée par Nathanaël. Genet est-il queerisable ?
Oui, ça, je crois que on pourrait essayer d'y répondre chacun et peut-être nos amis dans la salle. Moi, je voudrais en fait poser une question à Claire et une question à Nathanaël. Dans votre présentation, vous avez pointé sur ce moment tout à fait topique, qui est le moment à la fois esthétique et métaphysique sédimenté dans le texte sur Rembrandt de Genet, qui est en fait la pièce manquante dans mon exposé, tout simplement parce que je l'ai enlevé, qui est le passage par le tout homme, par l'équivalence, par le rejet de la notion de hiérarchie et par l'impossibilité de capter ou d'emprisonner le sens, en particulier le sens des étiquettes ou des labels ou des définitions, etc., ce qui, à mon avis, permet de faire la jointure avec l'exposé qui a suivi. À ce propos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Frida Ekoto sur qu'est-ce que la couleur d'un noir. Je crois que le titre, c'est « What is the color of black ?» Et je crois que le travail de Frida, parfois, recoupe vraiment le vôtre. Il est plus historique, dans la mesure où il va plus vers la période de la négritude, le mouvement noir américain, etc. Ma question pour vous porte sur le lien que vous avez fait entre les arts plastiques et les nègres. Et en fait, à travers les arts plastiques, vous avez proposé une lecture des nègres. Vous avez dit à un moment donné que il y avait une apparence de nihilisme dans la position, disons, éthique de Genet, et qu'une lecture attentive du théâtre permettait de dépasser cette apparence. Alors, c'est un peu ça que je voudrais que vous nous expliquiez davantage, c'est-à-dire comment on passe du rien à un rien dans lequel s'esquissent ou s'ébauchent des mini-structures positives. Et ma question pour Nathanaël, dont j'ai vraiment beaucoup aimé la présentation et puis la passion aussi, porte non pas sur la question de la vivabilité. Ça, je crois que tu l'as remarquablement défendu et articulé, notamment la vivabilité de l'abjection. Ma question porte sur l'utilisation de la notion de closette elle-même. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai bien compris tout ce qui ressort du refus de sortir du closette, etc., bon, du rituel de la sortie du closette et tout. Bon. Mais à un moment, tu as dit, le closette est ouvert, la lumière y entre. Oui, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas la vivabilité du closet ouvert, c'est-à-dire non pas la vivabilité du placard fermé, mais la vivabilité du placard ouvert? Et est-ce que cette notion d'ouverture n'est pas importante, surtout quand il s'agit d'un écrivain qui, c'est le cas de le dire, écrit pour nous à livre ouvert? Voilà.
Claire Finbourg.
J'essaierai de répondre à votre question. Alors, ma référence au nihilisme, c'était en fait, ça avait à faire avec la première partie de ma présentation, c'est-à-dire refus d'une valeur ou d'une signification ou d'une vérité stable ou concrète qui pourrait mener à l'idée que chez Genet, il n'y a pas que le sens est impossible. Et je prends l'exemple du théâtre parce que en fait c'est là où je conduis essentiellement mes recherches. Et en fait, je peux penser à un exemple. Par exemple, Albert Dichy hier a évoqué les gants de vaisselle, par exemple, dans le cas des bonnes, qui d'une manière n'ont aucun sens fixe. Il n'y a pas de sens stable avec un signe en tant que tel. Mais ce signe en particulier rentre en rapport avec, comme je décris, une constellation d'autres signes dans la pièce ou sur le plateau qui donnent une profusion de sens. Aucun sens n'est exact, aucun sens n'est fixe, mais ces gants de vaisselle peuvent représenter l'abjection qui est retournée en beauté ou la position de bassesse des bonnes, ou bien le motif des fleurs, parce que c'est décrit comme une fleur ou un éventail. Et donc, d'une manière, il y a le vide ou l'effacement du sens. Et de l'autre manière, en fonction des rapports relatifs à d'autres signes dans le texte, il y a un foisonnement de sens. Voilà.
Je vais développer après, mais en un mot, oui. Voilà. Oui, il me semble... Et ça, c'est une limite profonde, à mon sens, de la théorie queer, sur ces notions d'enfermement et de placard, qu'il y a deux placards, comme il y a deux homosexualités chez Hockenheim. Il y a le placard que j'appellerais le placard fermé, qui est simplement l'hétérotopie de l'abjection, où voilà, on met les déchets, on met ce qui est fort clos et ça ne bouge pas. Et ce que j'appelle le placard ouvert, c'est ce que Hockenheim appelle l'homosexualité à la dérive. C'est-à-dire, c'est le moment, justement, où il va y avoir une récupération de la maîtrise du signifiant qui permet, justement, cette dérive. Et l'ouverture, en un sens, je garde le mot placard, mais le placard, à ce moment-là, bouge. Il n'est plus exactement ce qu'il est censé être. D'un point de vue extérieur, il va être toujours vu à sa place, à la bonne place, par l'organisation sociale et symbolique, mais il ne va plus être exactement celui qu'on croit. Donc oui, c'est tout à fait important. Et ça correspondrait le passage des deux pour revenir à Genet, pour revenir à ce motif des fleurs que j'aime beaucoup, au passage du miracle de la rose, quand il se fait cracher dessus, et que d'un seul coup, les crachats deviennent des fleurs. Et il ne dit pas « je vais partir pour qu'on arrête de me cracher dessus », il finit en disant « je voudrais qu'on me crache encore plus dessus ». Et pour moi, c'est ce « je voudrais qu'on me crache encore plus dessus » qui signifie l'ouverture du placard par cette force extraordinaire de frapper différemment le crachat qui n'est plus crachat, qui est rose.
Claire, prenez le micro, peut-être qu'il y a aussi des questions à poser à Ralph ou à Nathanaël de votre côté.
Oui, en fait, je voulais vous interroger. C'est un point en commun que je pense avoir décelé. Il y a beaucoup de points en commun entre vos deux présentations, mais en particulier, j'avais pensé à Genet en face de l'idée de la politique ou de l'éthique, et j'avais pensé à l'idée des rapports de pouvoir. Et spécifiquement, d'après ce que j'avais compris dans votre propos, Ralph, c'est un refus de la part de Genet de revendiquer les marginaux d'une manière qui pourrait imposer un rapport de supériorité de sa part. Et vous, ce que j'ai, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai vraiment aimé avec cette idée du placard, à un moment, vous avez dit qu'il n'y a pas de coming out, il ne s'agit pas d'un coming out. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas une tentative d'assimilation, il n'y a pas, ce n'est pas à l'autre de sortir et de s'intégrer dans les normes majoritaires. C'est à la population, à la majorité, d'être obligé de regarder ce qui se passe dans le placard. Et là encore, je pense qu'il y a peut-être dans tout ce qui est embrasser ou faire entendre la voix de l'autre chez Genet, il y a un refus de voir l'autre comme inférieur, de se poser dans une position de supériorité. C'est quelque chose que j'ai vu en commun.
En fait, si tu permets, Nathanaël, j'aimerais bien répondre à la question que vous avez posée à Nathanaël. Mais évidemment, je vais la ramener vers mon propos, mais parce que je crois que c'est très important, à la fois la question et puis l'intervention qu'il a faite. En fait, je crois que ce que vous avez très bien perçu peut s'appliquer très exactement à la position du politique ou la politique en creux qu'il y a chez Genet. De la même façon qu'on pourrait dire, pour aller un peu vite, mais je crois que ça fait image et une image éclairante, que ce n'est pas au placard ou au monde des rejetés ou de l'abjection, etc., à s'accommoder, à se présenter, à s'orienter de manière programmatique, tactique, stratégique, en fonction des moments et des enjeux, et à s'articuler ou à essayer de s'articuler sur, appelons ça la société globale, mainstream society, etc., mais de forcer la société globale à aller voir dans ce placard et peut-être à se déglobaliser un petit peu, c'est-à-dire à se contaminer un petit peu par ce qu'elle ira y voir. De la même manière en politique, ce qu'on a souvent appelé son irréalisme radicaliste, le fait qu'ils prennent toujours fait et cause pour des positions qui sont politiquement intenables, que ce soit les Black Panthers ou que ce soit par exemple les Fedaïnes palestiniens, ou plutôt le mouvement palestinien à ce moment-là de son histoire, très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et j'ai des doutes sur ce que je n'y penserais, du pragmatisme réformiste, si on veut, de l'OLP d'aujourd'hui. En fait, ce radicalisme romantique, entre guillemets, de Genet procède du même ordre. Ce n'est pas, selon lui, au monde, ce n'est pas, selon lui, à ses mouvements, à s'adapter au monde, c'est au monde à devoir aller à la rencontre de ces mouvements et à peut-être éventuellement se déréifier. Ce n'est certainement pas dans le sens de l'accommodement que les choses sont pensées. Et donc je crois que là, le régime du désir, du sexuel, si on veut, et le régime du politique se rejoignent. En ce qui concerne la question alors que vous m'avez posée à moi sur la maîtrise, oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Le rapport de Genet avec les groupes vis-à-vis desquels ou aux côtés desquels il s'est engagé, ce n'est pas un rapport qui évite la maîtrise. Il est, après tout, Jean Genet qui l'a rejoint. Et ce n'est pas rien. Mais il est très conscient du caractère complètement futile, inutile, incongru de son adhésion. Ce n'est pas parce qu'il va dans les camps de Fedaïne que ça va changer quoi que ce soit à la cause palestinienne, ni dans un sens ni dans un autre. Et donc là, oui, il reconnaît son absence totale de maîtrise sur les événements, sur l'histoire, etc. Et ça, c'est une position très 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 différente de celle de l'intellectuel universel à la Sartre et consorts. Donc voilà, je crois que que ça, c'est un point très, très important.
Je répondrai rapidement aux deux remarques en même temps. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est exactement ce que je voulais dire en parlant d'innocence. C'est-à-dire qu'en reprenant les catégories cliniques, il ne cherche pas à détruire la loi. Il ne cherche pas à s'opposer pour s'opposer. Il est simplement là. Il a été dit, je crois hier, qu'il s'attachait à des causes perdues. Moi, je préférerais dire justement des causes innocentes. C'est-à-dire des causes qui ne se posent pas le problème d'être perdu ou non. Des causes qui ne se posent pas le problème, tout simplement. Voilà.
Des causes qui ne se posent pas le problème de la perte. Oui. Ou du gain.
Et donc, ça répond à la fois à la maîtrise et à la fois...
Voilà, on a le temps pour une ou deux questions, si vous le souhaitez, de votre part, avant de laisser la parole à Tahar Benjelloun dans les minutes qui vont suivre. Alors, il y a un micro qui va venir à vous. Albert Diffy.
Oui, je voulais juste d'abord dire que c'était assez formidable d'entendre trois interventions aussi complémentaires et chacune sur un point très différent, avec au fond d'un côté plutôt Géralf, plutôt les positions de Genet, chez Nathael plutôt ce qui se traduit à l'intérieur de l'œuvre, et puis Claire est donnant effectivement le moment, comme Ralph disait tout à l'heure, enfin, ou de ce moment très particulier où Genet écrit les textes sur Rembrandt, le rapport à Giacometti, cet ensemble de textes qui sont où Genet, comment dire, neutralise légèrement ce rapport et a fait rentrer ce rapport universel un peu à tout homme. Donc là, on a effectivement trois positions. Alors juste, je voudrais faire juste deux remarques. Il y a d'abord, il y a ce terme de coming out qui est venu dans la discussion, qui me paraît très intéressant parce que justement, c'est un mot qu'on ne peut en aucun cas appliquer à Genet, parce que il n'y a pas de coming out chez Genet, puisque son œuvre est dès le départ, et peut-être à la différence, enfin, je ne sais pas moi, de Proust qui n'en sort pas, de Gide qui lui fait une sortie. Mais Genet, on est dès le départ, c'est même pas un coming out, c'est intrinsèquement lié à son projet d'œuvre. Et la question de l'homosexualité est tellement profonde qu'elle est... il n'y a pas de sortie du placard. Même si, et là c'est aussi une chose que vous avez bien soulignée, même si malgré tout, il y a, comment dire, ce franchissement de la honte, enfin cette traversée de la honte qui est un élément dans cette question de l'abjection par exemple que Nathanaël a soulevé, qui est un élément très, très fort, hein. C'est-à-dire que malgré tout il maintient il y a encore chez Genet le maintien d'une sorte de passage, quoi. C'est-à-dire voilà. Donc je ne sais pas très bien comment si cette position là, ce rapport à la honte est un moment historique, je veux dire, qui est jeune, encore homosexuel de telle époque, ou si c'est quelque chose qui est qui fait partie inhérente de la question de l'homosexualité.
Je voudrais revenir rapidement sur l'histoire de honte. Je ne crois pas qu'il y ait de dépassement justement de la honte.
Franchissement.
Même de franchissement.
Bah, il dit comment dire, briser la coque de la honte pour arriver à l'orgueil. Hein. Il dit, mon orgueil, c'est paré de la rougeur de ma honte.
Moi, ce que j'y vois, c'est, je ne sais plus dans quel texte, Ockenheim disait, en parlant du mouvement homosexuel, on cherche à nous enfermer dans la fierté, ce qui n'est pas plus pervers que de nous avoir enfermés dans la honte. Et je ne crois pas qu'il y ait de différence entre orgueil et honte, en fait, chez Genet. Pas sûr qu'il y ait de différence. C'est la même chose, simplement ressignifiée.
Il n'y aura pas de fierté, d'ailleurs. C'est intéressant.
Parce que mais même orgueil.
L'orgueil, c'est autre chose que la fierté. La fierté est une affirmation positive. Jeûner n'a jamais été pour la... Ralph l'a souligné aussi, il n'a jamais été pour comment dire, que les homosexuels soient réintégrés dans leurs droits d'homosexuels. Il n'a jamais participé à ce genre de revendication. L'orgueil, oui, quand même, c'est... je ne sais pas, je crois que...
Juste un supplément à la question d'Albert sur cette histoire de coming out avec David Hommel qui est ici quand il a traduit le dernier Jeûnet. On a parlé beaucoup de cette histoire de sortie parce que le livre, le dernier Jeûnet, il est vraiment aimanté par la question de la sortie et notamment la sortie ou bien l'éclatement hors de la honte. Et enfin, d'une part, donc, le Jeûnet voit l'éclatement hors de la honte ou la sortie hors de la honte lorsqu'il observe les Algériens dans Paris après la libération. Donc là, c'est une question politique. Deuxièmement, je disais très fermement à David que je ne voulais pas qu'on traduise la sortie par « coming out », parce que c'était, là, ça renvoyait trop à la question de la sexualité. Et je réaffirme maintenant la sortie de Jeûnet. Enfin, je pense que chaque phrase de Jeûnet essaye de faire la sortie, mais que cette sortie n'est pas du tout seulement... où elle est aussi érotique, elle est sexuelle, elle est politique, enfin, elle est à chaque fois plus que sexuelle ou plus que seulement philosophique ou plus que seulement politique, littéraire, enfin, etc. Donc on peut pas, on peut absolument pas cantonner Jeûnet à une histoire de coming out, enfin, comme l'a dit Albert à l'instant.
Sachant que coming out, c'est social essentiellement. C'est pour ça que je l'ai utilisé dans ce sens-là par référence au placard. C'est coming out the closet. C'est pas sorti de la honte, c'est vraiment sorti du placard.
Non, je voudrais juste ajouter un tout petit commentaire. Jeûnet était très anti-homosexuel. On parlera de ça tout à l'heure.
Oui, mais il y a aussi son œuvre. C'est-à-dire que ça, c'était peut-être sa position.
Il avait un mépris même pour certains homosexuels qui essayaient de se rapprocher de lui ou qui essayaient de l'instrumentaliser dans le combat. Et il était absolument furieux contre certains qui traitaient de sales PD. Évidemment, son œuvre, c'est autre chose. Mais lui, dans son comportement, en tout cas, moi, tel que je l'ai connu, il n'était pas du tout... Ni dans le coming out, oui. Ni dans le coming in, ni rien du tout. Il était ailleurs et ça ne l'intéressait. Enfin, à l'époque, ça n'intéressait plus du tout de parler de ça.
Alors, il y a beaucoup de bras qui se lèvent, mais il y a aussi envie de répondre à certaines questions sur le plateau avant de laisser la parole ici à René Secati, là. Enfin, voilà, peut-être d'abord oui. Ralph.
Oui, je.
En réaction.
On m'entend là, ça marche. Oui, en fait, je voudrais. Pas répondre, mais plutôt situer dans ce qui a été dit aujourd'hui le propos d'Adrien et en fait la thèse de son livre. Justement, ça tourne autour de peut-être de la traduction justement de la notion de sortie, ce qui me paraît très important dans le livre d'Adrien, c'est qu'il lit chez Jeûnet des efforts de sortie et que le politique y joue un rôle capital. Justement, il s'agit là, et on revient un petit peu à cette notion de closet ouvert, etc., que je fais passer du sexuel au politique dans mon propos ici, je crois que c'est justement une façon, ce qu'il y a chez Jeûnet, c'est une manière très différente, très spécifique, très singulière de penser la sortie. Donc il n'y a pas seulement les efforts de sortie que tu pointes remarquablement tout au long de ta lecture, particulièrement fine, d'ailleurs parfois d'une finesse telle qu'on s'y perd un peu et qu'il faut te relire deux ou trois fois. Il y a en même temps... implicitement évidemment, une tentative de définir la notion de sortir ou de sortie différemment, c'est-à-dire de procéder d'une autre manière dans ce qui est de l'ordre de la sortie. Et ça me permet peut-être un petit peu de, comment dirais-je, de dire à la fois à Tahar que je suis entièrement d'accord, enfin de toute façon je n'ai pas été d'accord puisque c'est un témoignage qu'il nous rapporte, et donc je prends son témoignage à la lettre et que je ne suis pas du tout étonné par ce témoignage, mais que d'autre part, je crois que c'est une question, comment dirais-je, il faut s'entendre sur ce dont on parle ici. D'abord, ce que je n'ai pouvait ou non dire subjectivement de l'homosexualité, comme ce qu'il a dit d'ailleurs de beaucoup d'autres choses, c'est relatif et d'un intérêt, je crois, au demeurant relatif. C'est ce qu'il a écrit qui nous reste. Et ce qu'il a écrit n'est pas dans un rapport d'indifférence. Je crois que ça, on ne peut pas le prétendre. N'est pas dans un rapport d'indifférence avec l'homosexualité, bien au contraire. Par contre, ce qui est, je crois d'ailleurs très clair dans ce qu'a dit Nathanaël et ce que je me suis efforcé de dire aujourd'hui, et c'est aussi présent d'ailleurs chez Claire, c'est que la façon usuelle de voir la question de l'homosexualité, y compris par et chez les homosexuels, qui après tout sont victimes eux-mêmes de cette manière de poser la question, cela devait effectivement, pour des raisons, moi je ne l'ai pas connu personnellement, donc je ne peux parler que du point de vue des textes, mais je comprends que ça devait l'irriter au plus haut degré, et je ne suis pas étonné de ce témoignage. Mais je ne crois pas qu'on peut parler d'indifférence vis-à-vis de l'homosexualité, d'indifférence à ce qui est considéré comme la question homosexuelle, comme on dit aussi la question juive, ou là je viens de lever quelque chose là, ou la question, enfin toutes les questions, la question noire d'ailleurs, c'est la même chose. La question noire n'intéresse absolument pas, Genet, et il n'a pas, je crois, il n'a jamais eu de sympathie pour les noirs parce que c'était des noirs, pas plus qu'il n'a de sympathie pour les homosexuels parce que ce sont des homosexuels, etc. Voilà, c'est cela que je voulais dire à ce moment-ci du débat. Je ne sais pas si...
Juste un mot rapide, de pure provocation, quelque part, sur le rapport politique, justement. Il faut, c'est ce que je suggérais à la fin de mon propos, il faut s'entendre sur ce qui est révolutionnaire. Est-ce que ce qui est révolutionnaire, c'est la résolution de la question homosexuelle, ou est-ce que c'est, comme le disait avec beaucoup de finesse au Cunningham, simplement notre trou du cul? Si c'est la question de la résolution homosexuelle qui est révolutionnaire, Genet ne l'est en aucun cas. Si c'est notre trou du cul qui est révolutionnaire, les romans de Genet, me semble-t-il, d'une certaine manière, le sont.
Alors,
oui, juste deux mots. Patrice par rapport au dialogue sur la question de la honte, une référence m'est revenue, c'est un article de Alain Milianti qui avait fait une très belle mise en scène de 4 heures à Chatilla, qui a écrit un texte qui s'appelle « La honte chez Genet » dans un numéro spécial de la revue d'études palestiniennes intitulé « Genet et la Palestine », je crois. Donc cet article était très intéressant. Et j'ai une petite question, mais j'ai aucune idée là-dessus. Est-ce que dans le livre de Benjamin, tu as signalé que le titre en allemand, le mot Trauer, veut dire deuil. Est-ce que le motif du deuil est problématisé dans le livre de Benjamin? Et question annexe, est-ce que tu vois dans le travail théâtral de Genet, de ton point de vue, au-delà de celui de Benjamin, une sorte de travail de deuil?
Peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais, juste parce que le temps nous est imparti et se réduit, peut-être rassembler encore les deux questions ou propos qui pourraient être tenus, à savoir Agnès Vanouvon qui veut prendre la parole et René Tsekati pour rassembler éventuellement ces questions et y répondre de manière globale.
Oui, je voulais revenir sur la question des identités du queer, et j'étais assez frappée en vous écoutant, j'ai très content de vous écouter sur le queer, j'étais frappée par la notion d'écart au fond qui est le fil conducteur de vos trois intervention. Anne-Sophie Descartes, donc avec Claire, le refus de l'assignation identitaire, Ralph, ce que tu appelles la nuit politique du désir, et puis Nathanaël, ce que tu as dit sur la communauté et Anne-Sophie de Placard. Je me suis aperçue au fond que tout cela esquissait les contours du queer, qui serait comme une sorte de regard en biais, si on voulait donner une définition, quelque chose de tordu, vous l'avez rappelé. Alors la question que je me posais, c'est Jeunet résiste aux normes, vous l'avez montré, et résiste au paradigme normatif, aux schèmes hétérosexuels, etc. Est-ce qu'on peut queeriser Jeunet sans le trahir, lui qui reste si irrécupérable, comme le dit Barthes au sujet de Pasolini? Je parle du terme irrécupérable.
Merci. Peut-être René Secati, je vous ai vu lever la main aussi tout à l'heure.
Oui, ben, ça tombe bien que le nom de Pasolini ait été prononcé, parce que je voulais simplement ajouter quelque chose à ce qu'a dit Tarben Jeloun à propos du rapport de Jeunet à l'homosexualité, au mouvement homosexuel, c'est tout à fait semblable à la position de Pasolini. Et Moravia, qui était, comme vous le savez sans doute, ami à la fois de Pasolini et de Jean Jeunet, Jean Jeunet pour sa lutte pour le mouvement palestinien, puisque Moravia était très pro-palestinien. On a posé la question à Moravia, pourquoi est-ce qu'il y a eu une rencontre entre Jean Jeunet et Pasolini? Et tous les deux avaient exactement de l'autre la même idée, c'est que c'était une folle. Ils disaient non, ça ne m'intéresse pas. Moi, de la littérature de folle, ça ne m'intéresse pas. Et Jeunet disait, moi, le cinéma de folle, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est tout à fait... non, mais c'est très important, parce que ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas avoir... ils ne pouvaient pas se penser eux-mêmes comme d'abord ayant un semblable, quelqu'un avec qui ils pouvaient communiquer intellectuellement, d'où la grande difficulté que nous avons maintenant et que je vois en vous entendant, qui appartenait pour Nathanaël et Claire à une autre génération, parce qu'on lit heureusement Jeunet maintenant, mais le problème, c'est parler de la sexualité indépendamment de l'histoire, c'est impossible. C'est-à-dire que nous avons maintenant une position, il était inenvisageable qu'il y ait des cours tels que les cours que vous faites maintenant. Vous voyez, c'était totalement inenvisageable du temps de Jeunet. S'il avait su qu'à l'université, on enseignait l'homosexualité, mais il n'aurait pas publié une ligne. Vous voyez, c'est là toute la grande difficulté. C'est que, heureusement, moi je le pense, le regard sur l'homosexualité a énormément évolué. Mais ça rend très, très difficile l'analyse de la position de Jeunet. L'abjection, par exemple. L'abjection, c'est quelque chose de fondamental pour Jeunet, mais il l'a en commun avec Marcel Jouandeau. Vous voyez, c'est qui est quelqu'un de totalement différent. Et c'était une pensée, une intériorisation de l'homosexualité à un moment où elle était totalement rejetée. Donc, naturellement, on fait une force. C'est une réaction d'enfant, en fait. Les enfants exclus font de leur exclusion une force. Et ça a été la position de Jeunet. Je voudrais revenir également, je m'arrête là, sur la cause perdue. Je maintiens que Jeunet était pour les causes perdues. Et on le voit dans Pompe funèbre. Dans Pompe funèbre, il prend la cause perdue la plus perdue possible, qui est celle des miliciens, et il l'écrit parce qu'on est dans le triomphe de la résistance, où brusquement la résistance devient le langage dominant, et il va, par provocation, défendre le milicien. Là, il n'y a pas de cause perdue pire, ce qui laisse la porte ouverte aux crétineries de Éric Marty, parce qu'évidemment, il ne comprend pas du tout la position de Jean Jeunet, qui est indéfendable, qui est récupérable, en effet, comme nous l'avons tous dit, mais parce qu'il y a une volonté d'être du côté qui interdit le consensus, qui ne peut pas permettre le consensus.
Oui,
merci, je vais vous laisser.
Je voudrais enchaîner sur le commentaire de René, et peut-être partir de à la fois la fascination pour la figure du milicien et l'adhésion à la cause perdue. Je laisserai de côté la notion de perte dans cause perdue, parce que ça nous amènerait dans tout un débat de sémantique. Je crois que je suis d'accord avec toi. Peut-être que je n'appellerai pas ça avec vous. Peut-être que je n'appellerai pas ça une cause perdue, parce que le mot est utilisé souvent dans d'autres acceptions. Par contre, ce qui me paraît très intéressant, et ça me permettra de revenir peut-être au commentaire de Tahar, c'est que, bien sûr, Genet est, pour aller vite, attiré, fasciné, etc., par le milicien. Et bien sûr, c'est, pour aller vite de nouveau, une cause perdue. Il est aussi attiré érotiquement par ces miliciens. Ils sont, pour lui, beaux, sex appealing, et pas d'une manière hétérosexuelle, je veux dire, hein. Enfin, si ça veut dire quelque chose. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'homosexualité joue un rôle dans cette paradoxale attirance. De la même façon que nier le fait que Genet, dans toutes les causes auxquelles il a adhéré ou vis-à-vis desquelles il a été fasciné, avec les miliciens, je ne pense pas qu'on peut parler d'adhésion, mais certainement de fascination. Dans toutes ces causes, dans toutes ces adhésions, dans tous ces engagements, la sexualité, et ce n'est pas moi qui l'invente, il le dit, a joué un rôle essentiel. Il le dit avec une honnêteté fracassante, une honnêteté difficilement compréhensible par les gens qui ont de l'engagement, une idée, comment dirais-je, universalisante. Il faut s'engager dans des causes parce qu'il faut, de manière kantienne. Il le dit dans le passage que j'ai cité, mon adhésion à la cause algérienne est venue du fait que j'avais des amants algériens. Et donc, ce lien permanent entre l'idée d'une cause, appelons-la flottante, ou ce qu'on a défini rapidement comme perdue, et le désir, je crois que ce lien est vraiment tout le temps présent, et peut-être qu'il est de l'ordre de la tentative de sortie que Adrien Laroche lit dans les textes de Genet. Et c'est évidemment une sortie qui par elle-même est définie autrement que par le seul geste d'ouvrir une porte et d'aller de l'autre côté, dans la pièce d'à côté. C'est une sortie qui consiste à rester dans le même lieu d'où l'on veut en même temps ou dont on prétend en même temps sortir. Voilà, je crois que j'en ai.
Je voudrais faire juste une remarque sur les miliciens. Enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste de Genet, hein, du tout, mais moi j'avais plutôt le sentiment, en lisant ce texte, que plus que la cause perdue, en fait, c'était la figure du voyou ou du bandit ultime, quoi. Avant, on avait les Macs qui étaient des bandits. Là, on a quand même la figure du bandit absolu avec le milicien ou le nazi. D'où le rapport aussi à l'érotisme que je vois de manière assez proche de celui qu'il pouvait avoir pour le macro ou pour le bandit plus normal. Mais là, encore plus, parce qu'on a quand même un bandit absolu. Et juste une remarque par rapport à ce que tu disais sur la sortie. Ce que je ressens, ce que j'évoquais chez Genet, et c'est pour ça aussi le rapport avec la pensée queer d'une certaine manière, c'est plus une... et ça correspond à ce que tu as dit sur la sortie, une dérive, une mise en mal, un trouble. C'est-à-dire un déplacement, mais qui ne changerait pas de pièce. Voilà, d'où ce que vous avez dit sur l'homosexualité. Effectivement, ce qui fascine chez Genet, je pense, les gens de ma génération, où l'homosexualité est devenue acceptable et normale, c'est le rapport dérive inquiétant. Si l'homosexualité était toujours inquiétante et condamné, je pense que je serais fasciné par une toute autre figure de normalisation. Il y a toujours les deux, je pense.
On a laissé des questions en suspens. J'ai envie de laisser la parole quand même à Claire, mais alors vraiment deux secondes pour essayer de répondre à ces questions, mais on va s'arrêter là. Je sais qu'il y a encore d'autres questions et je sais que là, on ne va pas répondre complètement, mais on déborde trop sur le temps, donc il faut vraiment conclure là. Claire, peut-être essayer de répondre en un mot ou deux aux toutes premières questions qui vous ont été posées directement.
En fait, c'est une très longue réponse, donc peut-être que je vais résumer très très vite et on pourrait parler plus longuement après. Mais cette idée de deuil vient en fait parce que le théâtre baroque allemand vient juste après. C'est une réaction contre le classicisme, le théâtre classique, qui est une forme sûre, une forme certaine, une forme qu'on peut prévoir, et une forme qui reflète un monde plutôt prévisible, un monde stable. Alors que pour Benjamin, ce mot de deuil évoque... la fin de ce qui est stable représenté dans le théâtre. Et ça, c'est en gros ce qui est ce dont Benjamin fait mention. Et bon, le théâtre de deuil, Géjeuner, je pense que c'est un terrain énorme qu'on pourrait aborder ailleurs. Mais il y a bien sûr aussi Géjeuner, ce refus de représenter ou d'incarner un monde prévisible ou stable. Voilà.
Voilà, de toute façon, je vous invite à revenir cet après-midi pour la deuxième partie, d'une certaine façon, de cette thématique sur la question de genre. Il y a certains échos qui pourront se faire. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos passions et de vos connaissances et surtout nous avoir fait partager aussi votre écoute mutuelle. Et on va laisser la parole tout de suite à Tara Benjelloun, interrogée en entretien avec Adrien Laroche. Merci.